Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Nous lirons dans l'évangile de Luc. Ça bourdonne ici. L'évangile de Luc, chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité. » Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Depuis plusieurs dimanches déjà, nous parlons de ces paraboles de Jésus. Et ici, nous sommes à la 19e méditation sur ces paroles de sagesse, de puissance qu'il adresse et qui sont pour nous une source d'enrichissement et de force. Ici encore, nous avons quelque chose qui s'emboîte très bien avec ce que nous avons dit dimanche passé. Dimanche dernier, nous avons parlé du gérant infidèle. Ici, il s'agit toujours de gérance. Il y a plusieurs façons de gérer. Il y a plusieurs façons de faire et de disposer des biens que nous avons. Il y a plusieurs façons mauvaises, mais il n'y a qu'une seule façon bonne. Mais le Seigneur, en nous exhortant de la sorte, veut éveiller notre intelligence. Il veut éveiller notre connaissance. Et nous dire de prendre garde. La marque du véritable disciple est qu'il est un bon gérant. Un bon gérant de tout ce que Dieu lui a remis afin qu'il le mette en valeur pour lui, pour son royaume. Ici, de nouveau, nous avons un exemple de mauvaise gérance. Nous avons vu, la semaine passée, dimanche passé, l'intendant infidèle. Son habileté pour pouvoir se sortir d'affaires, l'admiration de son maître, non pas à cause de son acte mauvais qu'il a posé, mais à cause de son intelligence dans sa façon de faire et de se couvrir et de se justifier, tout en déplorant l'utilisation de son savoir-faire et de son intelligence pour une mauvaise cause, et de tirer la leçon qui est celle-ci. Les enfants de ce siècle sont bien souvent plus sages que les enfants du siècle à venir. Jésus a pris un cas mauvais pour en sortir une leçon positive. Et là encore, Jésus est très réaliste et il sait très bien que dans le monde, nous ne sommes pas des anges. Qui peut être bon et qui est bon parmi nous? Il n'y en a même pas un seul. Toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. C'est pourquoi Jésus étant réaliste, il ne prend pas des cas d'exemples de gens qui sont impeccables et justes, mais il prend des exemples de l'homme commun du monde qui n'a pas été changé, qui est peut-être religieux, qui peut-être a quelques valeurs au point de vue du monde, mais qui, pour Dieu, s'égare. Et là encore, l'exemple qui nous est donné est un exemple d'une gérance d'une gérance bonne jusqu'à un certain point, mais qui devient mauvaise, car cette gérance est centrée sur le moi, sur soi-même. Le véritable disciple est celui qui est échangé. Aucun homme n'est véritable disciple que lorsqu'il est changé. Et ce changement intervient à travers la nouvelle naissance, à travers la repentance, à travers un miracle. Et ce miracle ne peut se faire par la religion. Ce que nous prêchons ici est plus qu'une religion. La religion, bien souvent, n'a fait que de mettre une peinture extérieure, un aspect extérieur, une étiquette, mais n'a jamais changé l'homme intérieurement. Ce qu'il faut, c'est l'intervention du crucifié, qui a cloué le péché au bois de la croix et qui est ressuscité. La semaine prochaine, nous célébrerons cette résurrection. Et cette résurrection rend ce miracle possible, ce changement possible. Donc, des vrais disciples, il n'en existe pas dans le monde naturel. Il faut pénétrer dans le monde surnaturel. Et on y pénètre à travers la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. La marque du véritable disciple, ce véritable disciple qui a été rendu véritable par un acte miraculeux de la part de Dieu à travers la nouvelle naissance, est que ce disciple est un bon gérant de tout ce que Dieu lui a remis, de tout ce que Dieu lui a donné, afin qu'il le mette en valeur pour lui, c'est-à-dire pour Dieu, pour son royaume. Et là, nous avons encore un exemple de mauvaise gérance pour faire sortir ce que c'est que la bonne gérance. Le disciple ne travaille pas pour lui-même, mais pour son maître, auquel il aura des comptes à rendre. N'oublions pas que chacun d'entre nous, nous aurons des comptes à rendre de notre gérance. Rien n'est à nous. Nous, nous sommes venus dans le monde. Nous partirons de ce monde. Tout nous est prêté. Et ceci, ce qui nous est prêté, appartient à Dieu. Et il nous demande de le gérer comme il faut. Même les enfants que nous mettons au monde, ils ne nous sont que prêtés. Arrêtons notre domination despotique sur nos enfants. Nous, parents, nous, familles par extension, combien de fois nous exagérons en voulant dominer la vie de nos enfants, ou de nos neveux, ou de nos parents, quels qu'ils soient. Nous prétendons des droits, et à cause de cela, on les met sous un joug intolérable, jusqu'à vouloir intervenir dans leur vie de mariage quand ça ne nous plaît pas à nous, et à forcer le divorce pour des questions secondaires, pour des questions tribales, pour des questions d'intérêt personnel. Cessons de faire cela. Ces enfants ne nous appartiennent pas. Ces enfants appartiennent à Dieu. Ils ne nous sont que prêtés pour un temps. Ne devenons pas des despotes dans nos familles. Jésus a enseigné concernant les biens matériels et la richesse. Il a enseigné. Nous ne pouvons pas l'ignorer et nous savons comment nous devons nous comporter avec les biens matériels. Car le fait est là. Nous habitons dans un corps physique. Nous habitons dans un corps matériel, en nous. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme, c'est abstrait. C'est quelque chose de bien réel. C'est quelque chose que nous connaissons. C'est quelque chose qui habite en nous. Mais cet esprit, cette âme, l'âme, c'est la vie. La vie, expliquez la vie. Je ne veux pas l'expliquer. La vie. L'âme est dans le sang, dit la parole de Dieu. La vie est dans le sang. C'est pour cela que quand le sang est répandu, la vie s'en va. Et l'âme s'en va et l'esprit quitte le corps. C'est une habitation. Cet esprit, cette âme, qui ne peut pas être vue, qui ne peut pas être touchée, mais qui s'exprime, habite un corps. Et ce corps est l'outil. Est l'outil à travers lequel il s'exprime. De telle façon que le monde extérieur puisse le voir, puisse entendre, puisse s'exprimer. L'esprit en nous s'exprime à travers le corps. Le fait est là, nous habitons dans un corps matériel et nous devons répondre aux exigences d'un monde matériel. Le monde est absolument matériel et physique autour de nous. Nous ne vivons pas dans le désert, mais nous vivons au milieu de beaucoup de choses. Les choses nous entourent. Ce pupitre est une chose. Ce micro est une chose, Si haut-parleurs sont une chose, des choses, ces tables sont des choses nécessaires, ces chaises, ce sont des choses, ces souliers, c'est une chose, ces lunettes sont des choses, ce costume est une chose. Donc, nous avons des choses. Et ces choses, nous les utilisons. Ces boucles d'oreilles que vous portez, mesdames, ces montres que vous avez au poignet, ce sont des choses que nous nous sommes fabriquées avec notre intelligence. Voilà. Ce sont des accessoires. Nous ne sommes pas nés avec ça, mais ces choses, nous les avons acquises et depuis notre naissance, nos parents nous ont donné ces choses. Nos langes, nos petits bonnets, les petits boubous qu'on a portés, ce sont des choses, des accessoires que nos parents ont ajoutés à notre personne, à ce corps qui est une chose matérielle. Donc, nous ne pouvons pas dire que les choses de ce monde sont inutiles. Dans la parole de Dieu, il est dit « Au commencement était Dieu ». Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est ce que Jean nous dit, c'est ce que la Genèse nous dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais la parole, vous ne pouvez pas la toucher, je vous parle ici, mais cette parole, elle est tout à fait impalpable. Elle frappe vos oreilles, ce sont des ondes, mais ce n'est pas une chose qu'on touche, c'est pas vrai? La parole de Dieu est Dieu lui-même, puisque Dieu est la parole de vie. C'est quelque chose qui est impalpable, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Mais Dieu a voulu se révéler au monde. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce Dieu terrible. Ce Dieu terrible, cette parole puissante sur le mont Sinaï, qui faisait trembler tout le peuple. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et tout le monde tremblait devant lui à cause de sa sainteté, à cause de sa justice, à cause de ses commandements, à cause de sa loi, dont les hommes étaient incapables d'obéir, auxquelles les hommes étaient incapables d'obéir. Ils tremblaient. Et ce Dieu, il était indéfini. Ce Dieu, il était esprit. Mais ce Dieu est bien plus que terrible. Il est bien plus que super saint. D'une sainteté que nous ne pouvons pas imaginer. Il est plus, bien plus que cette lumière éclatante qu'on ne peut voir ni contempler. Il est bien plus. Qu'est-ce qu'il est encore? Il est amour, il est vérité, il est pardon, il est justice, il est grâce, il est compassion, ce Dieu-là. Mais pour révéler ces qualités-là, il a fallu que cette parole révélée au Sinaï devienne chair. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14 de Jean, chapitre 1, il est dit, « Et la parole devint chair !» Autrement dit, cette parole est devenue quelque chose de concret, est devenue quelque chose que nous, dans un corps matériel et physique, nous puissions voir, nous puissions toucher, nous puissions parler, nous puissions avoir un échange et une connaissance communiquée. Et quelle est cette connaissance que nous avons de cette parole qui est devenue chair? Quelle révélation nous a-t-il donnée? Le Dieu puissant devenu chair, en devenant chair, il est devenu fils. Il nous a communiqué sa nature. Quelle est cette nature? Qu'est-ce que nous avons vu en Jésus? L'amour, la compassion, le support, la patience, la vérité, le pardon, la justice, la grâce, et quoi encore? Une révélation merveilleuse. Alléluia. La parole devint chair. Autrement dit, cette parole invisible, cette parole qu'on ne pouvait voir, qu'on ne pouvait toucher, est devenue visible, concrète. L'invisible est révélé à travers ce qui est matière. Voilà. La parole est devenue matière. La parole est devenue chair de telle façon que nous puissions la voir, la toucher, la comprendre à notre hauteur, à notre échelle. Merveilleux. Merveilleux. Il est évident que les possessions sont nécessaires. Les possessions sont nécessaires parce que nous sommes dans un monde physique. L'homme ne peut rien faire sans possession. Depuis qu'il est né, le voilà avec ses premières possessions. Son petit hochet, son petit lit, sa petite chemise, son petit bracelet gourmet en or, comme on met souvent au bébé, pour certains qui possèdent. L'homme ne peut rien faire sans possession. Si vous mettez un homme tout nu dans le désert, il mourra. Pourquoi ? Pour pouvoir vivre, il lui faut des choses. Si vous mettez cet homme tout nu dans la forêt, il pourra vivre. Pourquoi ? Parce que là, il trouve des choses. Il va d'abord couper une branche. Ça sera son bâton. Ensuite, il va chercher de ces grandes plantes dont les feuilles sont très allongées. Il va arracher ça. Il va battre cette feuille avec son bâton. Et il va en faire ressortir les fibres. Avec ces fibres, il va faire une corde. Ça, c'est sa chose. Ensuite, il cherchera une épine. Il va attacher cette épine au bout de cette corde. Et il mettra cette corde au bout de son bâton. Et il va mettre un verre au bout de cette épine. Et il va tremper cette épine dans l'eau. Et il va attraper un poisson. Et il va vivre. Désormais, cette épine, cette corde, ce bâton, c'est sa chose. Et par cette chose, il peut vivre. Et c'est ainsi qu'il va se faire des outils. C'est ainsi qu'il va chercher des branches. Il va se faire une cabane. C'est ma cabane. C'est ma maison. Les choses sont les outils des vivants. L'ouvrier ne peut rien faire sans outils. Dans Deutéronome 24, verset 6, il est dit, « On ne prendra pas pour gage les deux meules, ni la meule de dessous, car ce serait prendre pour gage la vie même. » Dieu le sait, cet homme a des dettes. Et parce qu'il a des dettes, on va saisir dans sa maison ses biens pour payer ses dettes. Mais Dieu dit, attention, vous ne saisirez pas les meules. Il a dit ailleurs, vous ne prendrez pas son manteau. Pourquoi ? Parce que pour vivre, il a besoin de ces choses. Et Dieu le sait. Quelle était l'attitude de Jésus devant les possessions ? Parce que là, nous avons beaucoup dans notre monde, beaucoup de théories qui sont absolument stupides. On s'imagine que parce qu'on est chrétien, il faut être pauvre, il faut être malheureux, il faut rien avoir, il faut rien posséder. Mais quelle était l'attitude de Jésus devant les possessions ? Jésus n'a pas condamné les biens matériels en bloc, jamais. Il a dit au jeune homme riche, « Vends tout !» Mais là, cela n'était pas une loi universelle pour tous les riches. C'était un cas particulier. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme était attaché aux choses plus qu'à Dieu. Son cœur était là. Il était esclave de Mammon, esclave des choses. Vous vous souvenez, dimanche dernier, je vous ai dit que Mammon vient d'un mot araméen qui veut dire « argent est bien matériel ». Voilà. Argent est bien matériel. Ce jeune homme était possédé par ce qu'il plaçait avant Dieu, c'est-à-dire Mammon. L'argent, elle est bien matérielle. C'est pour cela, tu veux sauver ton âme, tu n'es pas capable de gérer ça comme il se doit. Vends tout plutôt que de perdre ton âme. Donc, c'est un cas particulier. Jésus n'a jamais préconisé l'indigence ou l'ascétisme, un ascète. Vous savez, c'est un homme qui se mortifie lui-même, soi-disant pour chercher Dieu. Il mangera tout juste suffisamment de nourriture pour garder l'âme avec le corps, mais il n'aura rien du tout. Quand même, il aura quelques vêtements, donc il aura des choses. Il va peut-être rester dans une cellule quelque part. Il va s'écarter du monde, c'est un ascète. Mais Jésus n'a jamais préconisé ça. Au contraire, Jésus a voulu que nous vivions dans le monde pour influencer le monde. Il ne nous a pas dit de vivre à part, comme des ermites, pour soi-même, pour gagner son salut. Vivre pour soi-même, c'est la vie la plus malheureuse qui soit. Vivre pour les autres, ça, c'est vivre véritablement. Il n'a pas donc préconisé l'indigence ou l'ascétisme comme une condition de disciple. Il n'a pas dit « tous mes disciples doivent être indigents, tous mes disciples doivent devenir des ascètes ». Non. Ses premiers disciples n'étaient pas des chômeurs. Ils étaient tous des hommes actifs. Ils étaient dans des pêcheries comme Pierre avec son père et ses associés. Ils étaient comme Matthieu, employés de l'État romain, d'accord, mais de l'État, pour récolter les taxes. C'étaient des hommes actifs. Nous voyons que le centurion, qui était un centurion romain, un officier dans l'armée romaine, duquel Jésus a guéri l'esclave, le serviteur. Et c'était un homme qui avait beaucoup de biens, puisque cet homme avait même construit la synagogue. Il aimait énormément son serviteur, et il envoyait quelques-uns de ses serviteurs vers Jésus pour dire, « Dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je ne veux pas qu'il meure, j'aime cet homme. » Et les Juifs qui étaient là autour de Jésus lui ont dit, « Mais cet homme aime beaucoup notre nation, il a même construit la synagogue. » Est-ce que Jésus a dit, « Oh, donc c'est un riche, moi je suis contre les riches, je ne fais rien pour lui. » Non, non. Jésus a dit, lorsqu'il est approché, il a approché de sa maison, ce centurion, cet officier romain a envoyé encore un autre de ses esclaves, et il a dit, il a donné ce message, « Oh, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je ne suis pas digne, si tu dis une parole, mon serviteur vivra. » Alors, Jésus de dire, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Autrement dit, il a loué cet homme qui n'était pas un juif à cause de sa foi. Et cet homme était un homme riche, qui avait beaucoup de biens, puisqu'il avait construit la synagogue. Et il était aimé de tous. Ce n'est pas à lui que Jésus a dit, « Va et vends tous tes biens. » Non, parce qu'il savait ce qu'il faisait avec ses biens. Et il était une bénédiction pour son entourage. La maison à Béthanie, où Jésus trouva amitié, repos, nourriture, confort, était un lieu où il y avait le nécessaire pour la vie. Il y avait des assiettes, il y avait des tables, il y avait des fourneaux, il y avait de la nourriture, il y avait une chambre où on pouvait se reposer, il y avait des lampes pour la nuit, il y avait une maison. Pensez donc aussi à sa robe à Jésus. Lorsqu'il a été crucifié, les Romains se sont partagés par le sort tous ses biens. Mais quand ils ont vu sa robe, ils ont dit, « Attention, ne la déchirons pas, c'est une robe de grande valeur que seuls les gens qui avaient de quoi pouvaient se payer. » C'était une robe qui était tissée d'une seule pièce sans couture. Voilà ce que Jésus portait. Sa robe était une pièce enviable. Pourtant, écoutez-moi bien, personne n'a donné des avertissements aussi forts, aussi sévères que Jésus contre les effets dévastateurs que la possession de beaucoup de biens peut avoir sur la personne du disciple. Le disciple doit gérer et savoir gérer ses biens. Nous avons ici dans cette salle des gens qui n'ont pas beaucoup de biens, mais quand même ils ont des biens, autrement ils ne pourraient pas vivre. Cette chemise, c'est un bien, c'est pas vrai? Ces chaussures, ce sont des biens. Cette robe, c'est un bien. Ce joli collier, c'est un bien. On se part. Pourquoi? Pour avoir, pour être dans la société comme il faut. Si un homme se promène tout nu dans la rue, on va dire c'est un fou et on va le ramasser. C'est pas vrai? Ah. Pour vivre et pour être considéré comme normal, il faut avoir un minimum de biens. Mais voilà, comment allons-nous gérer ces biens? Comment le disciple va-t-il gérer ses biens? Nous avons démontré que ces biens sont nécessaires à la vie ici-bas. Dans Luc 18, 24, Jésus a dit, « Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il a dit « Il est difficile », mais il n'a pas dit « Il est impossible ». Une différence. Dans Luc 16, 13, il est dit, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voilà. Qui allez-vous servir? Vous pouvez être riche, mais tout en étant riche, vous ne servez pas les richesses et vous ne servez pas les biens. Vous les gérez seulement. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont gérés par les biens. Ça fait une grande différence. Au lieu de gérer les biens, ce sont les biens qui vous gèrent. Vous en devenez esclaves et ils sont votre maître. Mammon est un maître. Vous ne devez pas servir Mammon, mais Mammon doit vous servir. Mammon doit être votre esclave. Et si Dieu permet que vous ayez quelques mammons, vous contrôlez ce Mammon et il vous sert et vous le faites valoir pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui vous entourent. Vous ne devez pas servir maman, mais maman doit vous servir. Ce n'est pas là les directives d'un révolté contre l'ordre économique et social. Du reste, les révoltés n'ont jamais rien à proposer de meilleur. Le révolté, vous allez voir, il va critiquer le riche, et il va même piller le riche. Le riche deviendra pauvre, lui, il deviendra riche. Quelle est la différence? Beaucoup de gens deviennent ennemis de ceux qui possèdent, tout simplement parce qu'eux ne possèdent pas ce que l'autre possède. Est-ce que c'est logique? Est-ce que le monde va devenir meilleur et la société meilleure lorsque je vais prendre par la force ce que l'autre possède pour me l'attribuer, soi-disant que c'est injuste? Mais l'injustice demeure, puisque tu as pris ce qui ne t'appartenait pas par la force, et que maintenant c'est toi qui possèdes, et que l'autre ne possède pas. Où est la justice? Ce n'est pas ainsi que ça marche. Non. Ici, nous n'avons pas les directives d'un révolté. Un révolté qui n'a rien à proposer que de prendre la richesse du riche pour la donner aux pauvres. Peut-être que le pauvre, il est pauvre bien à cause de lui, à cause de sa paresse, à cause de son manque d'honnêteté, de savoir-faire. Mais vous allez me dire, il y a beaucoup de riches qui sont malhonnêtes. Et leur richesse est le fruit de la malhonnêteté. D'accord, d'accord. Mais sachez qu'un jour, il le payera. Et si il est le riche à cause de la malhonnêteté, c'est qu'il est dominé par Mammon. C'est son Dieu. C'est une forme de cupidité. Et la cupidité n'a jamais construit quoi que ce soit. Un homme de la foule lui dit, Jésus était en train de prêcher. Si vous lisez ce chapitre ici, ce chapitre 12, vous verrez que Jésus était en train de parler à la foule. Et il donnait toutes sortes d'instructions merveilleuses. Et subitement, il y a un homme qui élève la voix et qui dit, « Maître, dis à mon frère de partager l'héritage. Notre père est mort. Et mon frère a tout pris. C'est le frère aîné, d'accord? Mais je sais, ne lui donne pas le droit de tout prendre pour lui-même. » Cet homme est préoccupé. Préoccupé par sa part. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est à lui, normalement parlant. Et son frère fait très mal. Il veut sa part de l'héritage. Et à cause de cette chose qui brûle dans son cœur, il interrompt la prédication de Jésus. Et il distrait les gens avec une question hors contexte. Il pense en lui-même, « Oh, celui-ci est un prophète. » C'est un homme qui a une autorité incontestée. Je sais que mon frère est quelque part dans la foule ici, et il va entendre ce que Jésus va dire. Son autorité va m'aider, va me justifier vis-à-vis de mon frère. Et je pourrai enfin rentrer dans mes droits. Ah, tes droits. Voilà son défaut. Tu n'as aucun droit. Tu n'es que gérant. Et si ton frère gère mal, tu dois l'aider, prier pour lui. Mais maintenant, mon droit, mon bien, mes affaires, mon argent, mon héritage. Ah, nous avons l'habitude de tout centrer sur nous-mêmes. C'est pour cela que nous perdons et que nous sommes pauvres. Il veut posséder, mais Jésus refuse d'être pour lui un simple magistrat. Il refuse. Il a une tâche combien plus grande à accomplir. Et il n'est pas venu dans ce monde pour régler nos problèmes d'héritage, pour des règlements de droits de succession. Non. Et il dit à cet homme devant toute la foule, « Qui m'a établi pour être votre juge ou faire vos partages? Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Ah, voilà. Gardez-vous de toute avarice, de toute cupidité. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Nous connaissons beaucoup de riches qui meurent très jeunes, pas vrai? Et nous connaissons beaucoup de pauvres, mais qui possèdent quand même quelque chose, et leur meilleur héritage, c'est encore en bonne santé. Du reste, ils gardent la santé. Pourquoi? Ils exercent leurs muscles, ils exercent leur corps. Ils piochent la terre, ils tournent la terre, ils travaillent,
Ils marchent, ils font ceci, ils font cela. Et ça, c'est la santé du corps. Tandis que ce riche, il est devenu mou, sans aucune force. Toute la journée couché sur son lit, il mange trop. Il a un ventre énorme. Il a un cou de gorille. Et il refuse tout exercice. La graisse remplit son corps tout entier, plein de graisse autour du cœur. Et un beau jour, paf, il va partir comme ça. Donc, ne vivez pas avec avarice. Évitez, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Au contraire, si tu ne sais pas gérer ton abondance, tu risques de mourir avant l'âge. À ce moment, Jésus enchaîne, après avoir donné cette instruction, il enchaîne son message, ce qu'il désire dire, par cette parabole. Et il dit, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Oh, mais ça, c'est formidable. On est content quand la terre a beaucoup rapporté, que la récolte a été énorme. Il semble que la richesse de cet homme est une richesse honnête. Il n'a pas ajouté champ à champ. Il n'a pas ajouté maison à maison, de façon que tout le pays soit dans sa poche. Non. Il n'a pas dévoré la maison des veuves ou des orphelins par la fraude ou en trichant sur les salaires. Non. Il veut avoir une belle vie. Voilà ce qu'il veut. Il veut utiliser ses biens pour jouir lui-même. Il bâtit de plus grands dépôts pour pouvoir mettre tous ses biens. Il pense en grand. C'est un vrai homme d'affaires. Il pense en grand. Il est audacieux. Il a du succès. Il est bien établi dans la société. Du reste, quand il passe, tout le monde le salue. Vous avez remarqué cela ? Un homme qui roule dans une belle voiture. Ici, la voiture par excellence, c'est la Mercedes, alors on va la mentionner. Quand il passe et qu'il s'arrête et qu'il vous invite de monter dans sa voiture, on se sent honoré. C'est pas vrai ? Mais si c'est un vieux taxi zaïrois qui fume de partout, les vitres sont cassées, on voit le trou dans le plancher, et puis ça tousse, ça crache, et ça traîne comme une couleuvre sur la route. Il va s'arrêter. Est-ce que vous vous sentez honoré ? Autrement dit, la richesse, nous la considérons. Peut-être que cet homme n'a pas plus de qualité morale que l'autre, mais simplement il possède. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup. Il possède. Et on se sent honoré. Bonjour monsieur. Mais à l'autre on va dire, yo, nini. Voilà la différence que nous faisons. Voilà le calcul de notre esprit. Un bon homme d'affaires, intelligent. Mais Jésus l'appelle insensé. Oh, insensé dans ta Mercedes, insensé dans tes grandes maisons, insensé dans tes grands dépôts, insensé dans tes réussites professionnelles. Pourquoi donc insensé ? Parce que riche ? Non, non, et non encore. Parce qu'il n'a pas su garder la distance entre lui et entre ses possessions. Frères et sœurs, nous ne devons jamais être identifiés avec nos possessions. Et nous ne devons jamais nous identifier avec les choses matérielles. Cet homme est pauvre intérieurement. Gardons nos distances avec les possessions. Vous avez vu ces taxis ou ces voitures ici en ville qui mettent une étiquette collée derrière. Gardez votre distance, n'est-ce pas ? Mais oui, pourquoi ? Si on ne garde pas la distance et qu'il s'arrête brusquement, paf ! Il y en a beaucoup qui sont ainsi. Ils ne savent pas garder les distances avec la richesse. Et puis, quand il y a un coup de frein, il y a écrasement. Et bien souvent mort. L'homme vit dans un monde matériel. Mais, quoique physique, il est un être spirituel d'abord. C'est ça que nous ne devons pas oublier. Nous vivons dans un monde matériel. Nous avons besoin des choses. Nous sommes nous-mêmes des êtres physiques matériels. Mais plus que cela, nous sommes habités par une âme, par un esprit éternel. Or, les choses qui sont dans le temps disparaissent, s'usent. Les choses qui sont dans le temps sont appelées à mourir. Tandis que cette valeur en nous ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. C'est-à-dire que cet homme gardera toujours la conscience. Il ne sera pas comme une fourmi qu'on écrase et c'est terminé. Il ne sera pas comme une poule, on coupe le cou, on va la manger et c'est terminé. Non ! Il y a l'éternité pour toi et pour moi. Alors, cet homme est d'abord un homme spirituel avant d'être un homme physique. Il doit se dire à lui-même, possession, vous n'êtes pas ma vie. Vous ne serez jamais ma vie. Un gouffre nous sépare. Je vous utilise comme mes serviteurs pour le temps présent. Mais non pas pour l'éternité. Les possessions ne peuvent pas répondre aux besoins spirituels. Vous pouvez avoir toutes les possessions du monde, mais ces possessions ne vont pas répondre aux besoins de votre âme et de votre esprit qui sont éternels et qui n'ont que faire de votre argent, de vos voitures, de vos maisons. Votre âme, elle ne crie pas après les possessions, elle crie après Dieu. Les possessions ne sont que pour ce corps de chair, c'est tout. Mais pour cet homme, la vie est absorbée par les possessions. Il est intelligent, il est honnête, mais son cœur est là. Son lui-même est absorbé par ce qui est hors de lui. Il est un égoïste, il est un cupide, il est un matérialiste, voilà ce qu'il est. Et à cause de cela, son âme est en train de mourir. Les possessions sont un Dieu jaloux. Regardez comment il parle, cet homme. Il dit, « Que ferais-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai, mon âme, tu as beaucoup de biens. » Voilà. Ne cherchez pas plus loin. Il n'est intéressé que par lui-même. Il veut des possessions que pour lui-même. Il n'a pas de pensée pour Dieu. Ma récolte, dit-il. Mais dans quel sens cette récolte est-elle à lui? Qu'a-t-il fait lui-même pour cette récolte? Peut-il commander à la sève de monter dans les tiges? Peut-il commander afin que le processus de l'inture se fasse pour que l'épi se forme et qu'enfin le blé mûrisse et que ce blé se transforme en farine et que cette farine devienne du pain? Non. A-t-il autorité sur le sol dans lequel les racines puisent les minéraux? L'humain est incapable de séparer les minéraux qui sont là dans le sol, les protéines et tout cela, et qui se transforment en une nourriture qui va garder le corps et l'âme ensemble. A-t-il autorité sur le soleil qui se lève tous les matins et qui se couche le soir? Peut-il changer sa brillance et son éclat? Non. Et la pluie, il en faut une juste mesure. S'il y en a trop, tout va pourrir. S'il n'y en a pas assez, tout va sécher. Donc, il y a un équilibre, il y a un cycle. Qui contrôle cela? Ce n'est pas toi, ô homme. Les saisons sont-elles là à cause de tes mérites? Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il dit, ma récolte. Oh, ne parlez pas comme cela. Sa fortune dépend de l'équilibre de la nature. Sa fortune dépend de la dose de chaleur, de la dose de lumière, de la dose d'humidité, de la dose des valeurs nutritives du sol. Le cycle de la nature doit se suivre. Et ce cycle peut être perturbé. Et il parle, ma récolte, vantard. Jésus dit, c'est un insensé. Tel est son titre, insensé. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Jamais ils ne disent merci à Dieu. Jamais Ils tirent de la terre tout ce qu'ils veulent. Ils tirent de leur intelligence tout ce qu'ils veulent. Elles veulent gagner beaucoup d'argent. Et leur motivation, c'est de jouir, 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 jouir. Regardez dans notre société combien d'hommes et de femmes ont, trop souvent à cause de la malhonnêteté, gagné de l'argent. Ils ont même volé cet argent. Et puis, ils jouissent, jouissent, jouissent. Ils ont combien de bureaux? Il leur faut leur acheter une voiture, il faut leur acheter une maison. Du reste, elles savent y faire. Elles vont au féticheur pour que l'homme leur paye la maison, leur paye ceci, leur paye cela. Et il faut tout, la télévision, le magnétoscope et tout. Elle a l'antenne parabolique et puis la maison la meilleure et puis des gardes et puis ceci et puis cela. C'est pas vrai? Jouir, jouir, jouir! Et il le fait. Insensé, dit Dieu. En plus de cela, pour ses terres, il a fallu qu'il ait des laboureurs. C'est pas lui qui a passé la charrue. Il a fallu des bœufs pour tirer la charrue. Aujourd'hui, ce n'est pas des bœufs, ce sont des tracteurs. Mais où trouves-tu le métal qu'a fait le tracteur? Tu le puises dans le sol. Qui c'est qui l'a mis là? Où trouves-tu le carburant pour ce tracteur? Tu le trouves dans le sol. Qui c'est qui l'a mis là? Les semailles. Ce n'est pas toi qui as jeté la graine dans le sol. Ce n'est pas toi qui as fabriqué cette graine. Et l'entretien, la lutte contre l'érosion, et contre les mauvaises herbes, ce n'est pas toi. Et la construction de ces greniers supplémentaires, peut-être que tu as commandé, peut-être que tu as payé, mais ce n'est pas toi. Beaucoup y ont participé. La prospérité, la richesse, est un accomplissement de la société plus que de l'individu. Si la société ne fait pas son devoir, l'individu sera pauvre. Il n'y aura que des privilégiés qui profitent de l'individu, c'est tout. Les sources de revenus sont la terre, le travail et les idées. Voilà les sources de revenus. Quant au reste, on s'appuie sur Dieu et on prend ce qu'il nous a donné. Attention, ce qu'il nous a donné de gérer. Chacun apporte sa part. Ta richesse est le résultat d'un travail collectif. Aujourd'hui, nous avons de belles voitures. Presse-bouton. On appuie sur un bouton, la vitre se ferme. Les transmissions sont automatiques. Air conditionné. Direction assistée. Suspension fantastique. Mais, regardez les premières voitures, il y a un siècle en arrière. Est-ce que vous les voudriez aujourd'hui? Mais comment cette voiture d'aujourd'hui a pu devenir comme cela? Nous avons hérité de ce que les autres ont laissé derrière eux. Et nous allons dire, ma voiture! Mais ça, c'est le travail de toute la collectivité. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est le Dieu qui nous a donné l'intelligence, mais jamais nous ne voulons reconnaître Dieu. Moi, je, mes récoltes, mes greniers, mes affaires, mon argent, cesse de parler de la sorte. Insensé, dit Dieu. Ta richesse est le résultat du travail collectif. Mais il dit, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Que ferai-je, moi, pour serrer ma récolte à moi? N'y aurait-il plus de pauvres? N'y aurait-il plus de malades pour ne pas savoir que faire avec ton surplus? N'y aurait-il plus de dévêtus autour de toi? Pourquoi tout penser et tout raisonner en fonction de toi-même, comme si on est les seuls au monde? Égoïste, égocentrique, cupide. Délibérément, cet homme veut passer le reste de ses jours à se faire plaisir à lui-même. Son âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois et te réjouis. Mais qu'en est-il du mendiant qui est à ta porte? Qu'en est-il du nécessiteux qui ne peut pas payer la facture d'hôpital et qui va pleurer partout tendant la main? Qu'en est-il? Sache que ta condition deviendra sa condition si toi, tu ne vis que pour toi-même. Indifférent envers ses semblables, indifférent envers la part de Dieu. Il est pauvre, il est indigent et il perd sa vie physique à cause de la folie des jouissances des biens qu'il a acquises et qui font qu'on se consume corps et âme dans les passions. Combien au milieu de nous, dans notre ville de Kinshasa, se sont consumés dans les passions et sont morts avant l'âge, attrapant le sida, attrapant des maladies de cœur. Ils n'ont plus d'exercice, ils sont devenus paresseux, ils ne savent que commander, et ils payent leurs ouvriers à peine avec quelque chose qui ne fait même pas la nourriture de 2 jours. Et ils exigent, et ils commandent. Nous disons, bien souvent lorsque quelqu'un est mort, nous allons au cimetière et nous disons, il a plu à Dieu de prendre le frère tel et tel ou la sœur tel et tel. Mais on peut être sûr qu'il n'a pas plu à Dieu de prendre cet homme-là. Car il y en a qui meurent, non pas parce que Dieu a décidé, mais c'est parce que leur péché a décidé. Et ils sont morts à cause d'un suicide lent. Un suicide lent à cause des passions mauvaises, à cause de la boisson, à cause de la cigarette, à cause des dérèglements de toutes sortes. Ils se suppriment 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Qui sait combien d'années ils auraient pu vivre? Non, il n'a pas plu à Dieu de le prendre, mais il est parti parce qu'il a mené une vie de suicide lent, mort par sa propre folie. Sa vie a été écourtée, sa vie par l'abus des possessions. Jésus a enseigné à ses disciples que la cessation de respirer est une chose mineure. Eh oui, dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer votre âme dans la gêne. Pour cet homme, son âme est malade. Elle est malade à la mort. Toutes les vraies valeurs en lui ont été volées par ses possessions. Vos possessions peuvent voler les valeurs morales. Les véritables trésors de la vie, c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas la voiture, c'est pas le compte en banque en dollars. Les véritables valeurs de la vie, ce n'est pas les choses périssables. C'est les véritables valeurs, l'amour, la joie, la paix, le contentement, l'harmonie, la générosité, la bonté. Voilà les valeurs qui ne périssent jamais et qui ne sont jamais dévaluées. Pour beaucoup, l'argent et les biens leur volent les vraies richesses. La vraie richesse est une conscience pure, une vraie communion avec Dieu. Voilà la vraie richesse. Des œuvres d'amour envers son prochain, de la compassion, de l'oubli de soi en faveur de l'autre. Voilà la vraie richesse. La vraie richesse que cet homme riche a échangé contre les greniers. Vous verrez qu'un homme riche, bien souvent, il est méchant avec ses ouvriers. Il devient exigeant. Il méprise le bien de l'autre. Il veut être servi, mais il veut lui donner le moins possible. Le moins possible. Et il devient dur. Pour lui, il n'y a pas d'amour pour son ouvrier. Pourtant, il a besoin de cet ouvrier. Pour lui, il n'y a pas de compassion pour ses besoins. Il veut tout en fonction de lui-même et non pas en fonction des besoins de l'autre. Autrement dit, la vraie richesse, il ne la possède pas. C'est pour cela qu'il va s'appauvrir jusqu'à mourir. Dieu dit, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Les trésors du monde vont d'un côté et nous, nous allons d'un autre. Les trésors du monde restent, mais nous, nous partons. Alors, ne vous identifiez pas avec les trésors du monde. Ne devenez pas méchant à cause de l'argent. Ne devenez pas mauvais à cause des possessions. Ne devenez pas intraitable à cause de ces choses périssables. Nous ne suivons pas la même route. Le véritable trésor doit être à l'intérieur. Mais cet homme-là a négligé le vrai trésor. La mort est venue tout d'un coup, au jour de la prospérité. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Tu veux vivre longtemps? Sois riche quant à Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que tu ne peux pas être riche quant au monde, mais cette richesse tu la gères. Non en fonction de toi-même, mais en fonction des besoins qui sont autour de toi. Dieu te bénira. Tu auras ta Mercedes, tu auras ta maison, mais ton cœur ne sera pas fermé aux besoins de l'autre. Ton cœur ne sera pas fermé aux besoins de ton ouvrier. Tu voudras que ton ouvrier soit participant de ta prospérité. Notre âge est englué dans les choses matérielles, embourbé dans les choses matérielles. On veut posséder à n'importe quel prix. Notre standard du succès s'estime par les biens possédés. On va dire, oh, cet homme a vraiment du succès. Pourquoi? Parce qu'il a un compte en banque, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a une maison. Quelle sottise, alors qu'il est désespérément pauvre dans son cœur. Les biens sont soit un progrès, soit un recul. Tout dépend de notre attitude vis-à-vis d'eux. Jésus a dit, insensé. Insensé, cet homme qui veut amasser pour lui-même, amasser des biens sans une croissance d'amour envers Dieu, sans une croissance d'amour envers son prochain. Cet homme-là, c'est un suicidaire. Il est en train de se suicider. Il ne vit qu'en fonction de lui-même. Le matérialisme est devenu une menace et un grand danger. Non que les outils soient à rejeter, non que la voiture soit à rejeter, non que la maison soit à rejeter, non que ces appareils duquel on jouit soient à rejeter, non, non que ce vélo soit à rejeter, non que cette maison ou ce bateau ou cet ordinateur ou cet équipement soit à rejeter. Non, en soi, ce n'est pas mauvais. Mais qui te conduit cette chose-là ou Dieu? Qui veut retourner à l'âge de la pierre? Dieu ne nous demande pas qu'on rejette tout ça et qu'on retourne à l'âge de la pierre. Même à l'âge de la pierre, il possédait la pierre, le silex, taillé et tranchant. Nous devons être rachetés au contraire de notre convoitise, rachetés de notre cupidité, rachetés de notre avarice et rachetés de notre égoïsme. Changer de caractère. Un ivrogne, il est dangereux, n'est-ce pas? Il y a des ivrognes qui sont méchants. Mais un ivrogne qui conduit une voiture, il est combien plus dangereux? C'est bien le cas aujourd'hui dans notre société. Société éclairée. Nous avons plein de choses et nous nous conduisons comme des ivrognes et des irresponsables. Un homme en colère, il est dangereux avec ses poings et il cogne. Mais un homme en colère, avec une arme à feu dans les mains, une mitrailleuse, combien dangereux il devient alors? Et voilà, nous sommes à cet état d'homme aujourd'hui. Nous n'avons plus de discernement. Nous avons des moyens extraordinaires dans nos mains. Et nous aimons Mammon plus que Dieu. Et nous devenons dangereux, prêts à tuer, à piller, à détruire, sans réaliser que nous sommes désespérément pauvres. Le matérialisme ne justifie jamais qui que ce soit. Le matérialisme ne satisfera jamais notre âme. Dans Luc 12, 33, il est dit, « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor impérissable dans les cieux. » Des bourses qui ne s'usent point, un trésor impérissable dans les cieux. Baissons la tête. Seigneur, tu nous enseignes encore ce matin à cette heure. Combien de fois nous nous conduisons comme des ivrognes qui conduisent une voiture? Car aujourd'hui, Seigneur, nous possédons la voiture. Combien de fois nous nous conduisons comme un homme en colère avec une arme automatique à la main? Parce qu'aujourd'hui, nos rues sont pleines d'armes automatiques. Et nous voulons prendre le bien de l'autre. Et notre motivation, c'est toujours moi, moi, moi. Alors que notre âme est affamée, elle meurt de faim. En nous, il n'y a pas d'amour du prochain. En nous, il n'y a pas l'amour de Dieu. Et nous disons, c'est à moi, c'est mon bien, c'est mon bien. Or, nous ne sommes que des gérants de choses qui ne nous appartiennent pas. Et ces choses, ce sont des choses périssables. Seigneur, aide-nous à comprendre. Donne-nous l'intelligence et la sagesse, afin que nous mettions ta parole en pratique et que nous voyons au-delà des biens de cette terre. Que nous voyons au-delà des richesses périssables. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous attacher à ce que nous touchons, à ce que nous voyons, à les utiliser simplement avec distance, en te donnant ce qui est à toi. Mais Seigneur, aide-nous à amasser des trésors dans les cieux. Et quand nous serons devant toi, alors, en ce jour, notre compte sera alimenté et il sera multiplié avec intérêt.